Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Donald Trump a voulu limoger le procureur de l'enquête russe. Son rapport Mueller le dit, mais il ne met pas en cause le président américain dans une éventuelle collusion lors de sa campagne présidentielle en 2016. Explication de notre correspondant à Washington dans un instant. Nous vous expliquerons aussi le verdict dans le procès en appel d'Abdelkader Merah. Il est condamné à 30 ans de réclusion pour complicité des crimes de son frère Mohamed Merah. Et puis, où en est l'enquête sur les bébés nés sans main ou sans avant-bras en France? Les parents étaient reçus hier à Paris, sans en apprendre grand-chose, vous l'entendrez. Après 22 mois d'enquête aux États-Unis, le rapport Mueller a finalement été rendu public hier soir. 448 pages, dont certaines ont été caviardées pour respecter le secret de la procédure, mais l'essentiel est connu désormais. Game over, a répondu Donald Trump hier, blanchi des soupçons de collusion avec la Russie pendant sa campagne présidentielle. Pourtant, sur les volets entrave à la justice, le procureur spécial Mueller n'est pas aussi catégorique. Il évoque dans son rapport plusieurs scènes lors des le président américain a tenté de peser sur le cours de la justice. Florilège de ses réactions avec Grégory Phillips.
Le 17 mai 2017, au matin, le numéro 2 du département de la justice, Rod Rosenstein, annonce au président qu'un procureur spécial indépendant vient d'être nommé pour enquêter sur les soupçons de collusion entre son équipe de campagne et la Russie. Dans le bureau ovale, Donald Trump s'effondre dans son fauteuil. « Je suis foutu, c'est la fin de ma présidence », déclare-t-il, selon le témoignage d'un employé du ministère. Un mois plus tard, le 17 juin, Trump téléphone à l'un des avocats de la Maison-Blanche, Don McGahn, et il lui demande d'enclencher une procédure pour limoger Robert Mueller. Le conseiller refuse, mais l'ordre a bien été donné. Tout au fil de ces 448 pages, d'autres exemples sont cités. À plusieurs reprises, Trump a suggéré à ses collaborateurs de mentir à la presse ou devant le Congrès. Au total, le procureur spécial recense une dizaine d'incidents de ce type. Mais il conclut « Si nous étions certains que le président n'avait pas fait d'entrave à la justice, nous l'aurions écrit. Or, nous n'avons pas pu parvenir à cette conclusion. En clair, les enquêteurs ne veulent pas trancher sur une éventuelle obstruction de la part du président. Ils laissent au Congrès le soin de le faire. »
Le Premier ministre au Mali, ainsi que l'ensemble de son gouvernement, ont démissionné hier. Des départs qui interviennent 4 semaines après le massacre de Peul par des individus armés dans le centre du pays. Une femme de 29 ans a été tuée par balle cette nuit dans une fusillade à Londonderry en Irlande du Nord. Cela s'est passé lors d'incidents entre émeutiers et forces de l'ordre. La police locale ce matin y voit un incident terroriste. Les émeutes avaient été déclenchées par une perquisition menée dans un quartier considéré comme un fief nationaliste. Après avoir réduit de moitié sa prévision de croissance, Berlin inquiète le Conseil national de la productivité. Ses excédents plus précisément. Ce Conseil de la productivité produit un rapport sur chaque pays de l'Union européenne. La France, par ailleurs, est le pays où cette productivité est la plus forte, mais comme partout, elle ralentit. Et là aussi, le rapport alerte sur de possibles failles structurelles dommageables qui pourraient survenir en France. L'économiste Philippe Martin préside le Conseil national de la productivité, ainsi que le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre Édouard Philippe. Philippe Martin explique ses inquiétudes.
Il y a sur la France en particulier une spécificité qui peut expliquer le ralentissement de la productivité et on met l'accent sur la question des compétences, de l'éducation, où là clairement la France fait moins bien que les autres pays de l'OCDE. Donc là c'est un problème sur la productivité parce que on sait que les compétences, les modes de gestion, l'éducation, c'est ce qui prédit très fortement la qualité des produits et des services, hein, parce que la croissance, c'est pas seulement de la quantité, c'est aussi la qualité. Et donc ça, c'est un problème spécifiquement français. La deuxième conclusion qu'on fait, c'est que les questions de déséquilibre à l'intérieur de la zone euro, le fait en particulier qu'il y ait des comptes courants très excédentaires sur certains pays, au premier titre l'Allemagne, est un problème pour la zone euro et pour la viabilité de la zone euro dans le futur, parce que si on ne règle pas ce problème, on va revenir à ces situations qu'on a déjà vécues en 2011, 2012, 2013, où parce que des pays ont des problèmes de financement extérieur à cause de ces comptes courants déficitaires, on va revenir à des situations où potentiellement on va se poser la question, est-ce que ces pays peuvent rester dans la zone euro? Donc on prend un risque à ne pas gérer ces problèmes de déséquilibre, et c'est un risque qu'il ne faut pas prendre parce que l'euro est quand même quelque chose qui est très important pour tous nos pays.
L'économiste Philippe Martin, il répondait à Marie Viennot. Fin du procès en appel d'Abdelkader Merah hier soir et un verdict surprise a été rendu. Abdelkader Merah est reconnu coupable de complicité dans les crimes commis par son frère Mohamed Merah en mars 2012. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle contre 20 ans en première instance où seuls les faits d'association de malfaiteurs terroristes avaient alors été retenus. La Cour y a donc ajouté la complicité, Corinne Audouin.
L'élément central retenu par la cour, c'est le vol du scooter. 5 jours avant le premier assassinat, Abdelkader Merah a facilité ce vol, estime la cour d'assises d'appel, alors qu'il était parfaitement informé des projets criminels de son frère. À son retour du Pakistan fin 2011, Mohamed Merah avait en effet confié à son frère être prêt à lever l'étendard. Pour la cour, la formule était sans ambiguïté. Elle estime qu'Abdelkader Merah lui a donc apporté aide et assistance dans la commission des 7 assassinats de Toulouse et Montauban. Une aide attestée par les rencontres entre les deux frères, juste avant et pendant les crimes. Et s'il n'y a trace d'aucun échange téléphonique entre eux, eh bien c'est la preuve pour les magistrats que les frères Merah ont appliqué les principes de prudence édictés par la propagande djihadiste retrouvée chez Abdelkader Merah. 12 pages de motivation aux antipodes du verdict de première instance qui constatait un manque de preuves quant à l'implication directe d'Abdelkader Merah. C'est incompréhensible, a commenté son avocat Éric Dupond-Moretti, regrettant une justice qui cherche à avoir valeur d'exemple. C'est un signal fort et une victoire contre le terrorisme, ont salué les avocats des parties civiles.
Et notons que le deuxième accusé, Feta Malki, a été condamné, lui, hier à 10 ans de prison. Le président Emmanuel Macron a salué l'exemplarité des pompiers et des autres personnes mobilisées, toutes celles qui ont sauvé in extremis des flammes la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi soir. L'édifice souffre encore de 3 points de fragilité majeure. Comment la reconstruire? L'architecte Jean Nouvel sera l'invité de Guillaume Erner dans les matins de France Culture à partir de 7h40 tout à l'heure. Et puis nous reviendrons sur cette reconstruction possible avec Jacques Munier dans son journal des idées après ce journal. Après le grand débat national, la grande discussion, même si l'on ne connaît officiellement toujours pas les mesures voulues par Emmanuel Macron pour répondre aux Gilets jaunes, un député de la majorité annonce déjà une série de réunions avec les partenaires sociaux, sorte de conférence sociale pour tirer de nouvelles conclusions avant l'été. Le député La République En Marche de la Vienne, Sacha Houlier, en attend des propositions. Elle viendrait s'ajouter au résultat du grand débat, il l'a dit à Steven Goyer.
Dans le grand débat, il y avait des thèmes qui étaient prédéfinis, il y avait des orientations qui avaient été retenues, et puis il y avait ce qui restait à construire. Et donc, de ce point de vue-là, on aurait un complément pour que ce grand débat se poursuive avec les partenaires. Il y a eu des concertations sur des réformes emblématiques, comme les ordonnances, la formation professionnelle ou l'assurance chômage. On constate que ces concertations n'ont pas toujours donné satisfaction aux partenaires. Il n'empêche que pour construire des nouvelles solutions sur ce qu'était le pouvoir de vivre, sur ce qui a été les axes qui permettent d'engager la transition écologique, de la rendre soutenable pour les plus modestes, pour les mesures sociales qui pourraient être adoptées en faveur des plus démunis, on a peut-être besoin de davantage de soutien dans le corps social, de davantage d'accompagnement et puis peut-être de plus d'innovation. Et je souhaite que si ce projet comportait cette promesse, eh bien alors qu'elle puisse être prononcée, en tout cas à l'occasion du discours du président quand il aura lieu.
Un discours qui aura lieu dans les prochains jours, disait cette semaine la présidence. Les familles des bébés nés sans main ou sans avant-bras dans 3 régions de France, toutes se sont retrouvées hier à Paris au siège de l'ANSES pour un deuxième comité d'orientation. Un point sur l'enquête a été fait, mais après 6 mois de suivi, les parents ont maintenant le sentiment que les choses piétinent. Tara Schlegel.
Les familles sont sorties déçues de leur réunion au siège de l'ANSES, l'Agence de sécurité de l'alimentation et de l'environnement. 3 heures de discussion qui n'ont débouché sur aucune nouvelle piste. Santé publique France et l'ANSES ont rappelé aux parents que le comité d'experts, l'organisme chargé justement de formuler des hypothèses de travail, se concentrait pour l'instant sur la littérature scientifique déjà existante autour de ces malformations dont souffrent leurs enfants. Il faudra attendre au moins le 30 juin prochain pour que ces experts tirent les conclusions de leur lecture et élaborent peut-être une nouvelle méthode de travail. C'est trop long, regrette Isabelle Grassin, dont la petite Charlotte est née sans main à Guidel.
C'est très bien que le comité d'experts travaille sur des hypothèses à tester, mais en attendant, il y a déjà des pistes qui pourraient être creusées par rapport à l'eau, par exemple, comme vecteur d'un potentiel tératogène. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas déjà aller travailler sur les zones de Guidel, par exemple, voir si Calan, la ville dans laquelle il y a eu un cas, finalement, qui n'est pas très loin de chez nous, ben, on se rend compte que c'est le même réseau d'eau potable. Donc tout ça, ça n'est pas fait. Et donc on va attendre que les preuves se perdent pour aller faire le travail.
Pour éviter cela, Isabelle Grassin et les autres parents vont continuer à faire pression sur le ministère de la Santé et les autorités sanitaires.
Bloquons la République des pollueurs. Voici le nom d'une action de désobéissance civile qui est prévue ce matin en France par 3 associations de défense de l'environnement, dont Greenpeace. Les détails sont pour l'heure gardés secrets, mais l'objectif est de dénoncer l'inaction du gouvernement en faveur du climat. Les nuages seront encore bas sur les Pyrénées ce matin, mais le soleil se fera une place à la mi-journée. Soleil visible dès ce matin partout ailleurs sur l'Hexagone. Comptez 16 degrés à Lille et à Strasbourg, 17 à Bayonne, 18 à Paris et Lyon, 21 degrés à Marseille dès ce matin.